When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Radio des Alpes, Didier.
Oh, mais tip top.
Bonjour et bienvenue sur Radio des Alpes. C'est Manon,
Axel
et Fanny. Nous venons d'entendre Summer de l'auteur et compositeur Calvin Harris. Cette chanson vient de l'album Motion, sorti le 4 mars 2014.
Alors les filles, on a quoi au programme?
On va d'abord écouter Aurélie qui va nous parler du cirque.
Cool, j'adore le cirque.
Mais Manon, ce n'est pas toi qui fais du cirque?
Oui, et après la chronique d'Aurélie, Gaëla,
ta prof de cirque va répondre à nos questions.
C'est pour vous, c'est maintenant l'interview.
Aujourd'hui, je vais parler d'un sport très physique et qui demande beaucoup de concentration. Il s'agit donc du cirque. Je vais commencer par les tissus. Les acrobates s'enroulent dans un grand tissu qui mesure plusieurs mètres de long et qui est plié en deux et suspendu à la verticale au plafond. Ensuite, ils se contorsionnent et font différentes figures acrobatiques à l'intérieur. Avec les tissus, on peut effectuer de grandes rotations au-dessus de la piste, ce qui ajoute beaucoup de grâce à tous les mouvements qu'on peut faire. Le tissu est un agrès aérien très physique. Les circassiens, c'est les personnes qui font du cirque, enchaînent des figures à plusieurs mètres du sol. Il faut donc avoir beaucoup de force, surtout dans les bras, car c'est la force la plus sollicitée pour faire des tissus. Elle est encore plus importante que la force des pieds. Le jonglage. On peut faire ce sport individuellement ou en groupe. Ça consiste à faire voltiger en l'air ou au sol des accessoires comme des anneaux, des balles, des quilles ou d'autres choses, sans les faire tomber, et il faut les relancer au fur et à mesure qu'on les rattrape. Le jonglage se pratique la plupart du temps en combinaison avec une autre discipline de cirque, comme le monocycle par exemple. Le monocycle, c'est un dérivé du vélo qui est composé d'une seule roue avec un pédalier et une selle. L'acrobate grimpe dessus et exécute diverses acrobaties, ou par exemple des sauts. Le monocycle se pratique souvent avec le jonglage, comme je vous l'ai dit juste avant. Pour finir, le trapèze. C'est une barre horizontale ronde suspendue au plafond avec deux cordes à la verticale. Dans les spectacles de cirque, il peut y avoir deux personnes et deux trapèzes. Et elles s'échangent de trapèzes ou se mettent à deux sur le même et font différents numéros. Il faut avoir beaucoup de force dans les bras pour pouvoir faire du trapèze.
Alors,
qu'est-ce qui te motive à continuer à faire du cirque?
Alors, moi, ce qui me motive, c'est déjà rien que le cirque, parce que c'est un sport assez complet. J'aime beaucoup y aller aussi, parce que je vois des personnes que j'aime beaucoup.
Et qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile dans le cirque?
Le tissu, parce que je suis pas très souple.
Le plus difficile pour moi, c'est mes grands écarts.
C'est quoi pour toi les qualités essentielles qu'il faut avoir?
Être persévérant, avoir envie et puis rien lâcher.
Alors les qualités essentielles, c'est la patience, il faut pas mal de musculature, la souplesse c'est aussi pas mal.
C'est plus un sport pour les filles ou pour les garçons?
Alors la plupart des gens pensent que c'est plutôt pour les filles, donc on a une majorité de filles dans l'école, mais il y a aussi des garçons.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous dire d'où te vient la passion du cirque?
Bien, aussi loin que je m'en souvienne, c'est le premier spectacle de cirque que j'ai vu quand j'avais 4 ans au Cirque CNI. J'ai été très marquée par les contorsionnistes et j'ai toujours eu envie de partir voyager avec eux. Et suite à ça, en 2002, j'avais 16 ans et j'ai découvert le Cirque Starlight, qui est un cirque moderne sans animaux. Puis ça a été une vraie révélation. Et donc, de 2008 à 2010, je suis partie voyager avec eux. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, Risley, avec qui on a créé notre école de cirque.
Pourrais-tu nous parler du cirque, ou plus précisément de ton école de cirque?
Eh bien, c'est une idée qui est née justement au Cirque Starlight en 2010. Mon mari et moi, on envisageait notre vie future en dehors des chapiteaux, pas une vie de tournée. Et on voulait continuer à pouvoir vivre du cirque puisque c'est notre passion. Donc on a fondé notre école, l'école de cirque Arena à Martigny en 2012. Et donc depuis, l'école grandit. Et Risley a la chance d'être artiste de cirque professionnel diplômé. C'est une profession qui n'existe malheureusement pas ici. Et donc avec notre école, on donne des cours hebdomadaires, des stages, on crée des spectacles, des ateliers. On a accueilli notamment le Collège Sainte-Marie pour des ateliers à Noël. Voilà. Et on propose 25 disciplines, tout ce que vous pouvez voir sous les chapiteaux.
J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous avez beaucoup de succès dans votre école de cirque?
Alors oui, je pense que oui, puisque après 3 ans, on peut en vivre gentiment. Et donc on a la chance d'avoir toutes les tranches d'âge représentées, depuis l'âge de 2 ans et demi jusqu'à plus de 40 ans. Donc ça fait plaisir.
Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour l'accueil.
Au revoir et bonne journée.
À vous aussi.
C'est quoi après?
C'est Lucky de Bastian Baker, de son vrai nom Bastian Kaltenbaker, est né le 20 mai 1991 à Lausanne. C'est un auteur, compositeur et interprète suisse.
Et après, Ludovic va nous parler des meilleurs jeux vidéo.
On sent que t'es fan, toi.
Ouais.
Never gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. I know I'm lucky. I wonder when you saw me crying tears. Certainly it's been a couple years. The brightest side of life has shown that I'm not wrong. That everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. 'Cause I'm lucky. Days are shining happy. The pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face. Lucky I'm lucky, and I hope I'll always be.
lucky all my life, so nobody will ever need to worry about me. I'm living free. Lucky star, I know a chance somewhere in the sky, high above and thin air, watching down to ensure that I'm alright. Feel at peace that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. Cause I'm lucky, the days are shining happy, the pain forever missing from when I wake throughout the day, a lasting smile upon my face. Never gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. I know I'm lucky that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. Cause I'm lucky, the days are shining happy, the pain forever missing from when I wake through.
Et maintenant, place au micro-trottoir.
Alors, bonjour à tous, vous êtes sur la radio des Alpes, ouais. Et moi, je m'appelle Ludovic. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon hobby, les jeux vidéo. Je vais pas juste vous donner une définition Wikipédia. Bah, pour ça, vous avez Internet, en fait, voilà. Non, je vais vous parler des clichés qui tournent autour des jeux vidéo. Et je vais pas juste me contenter de vous lister quelques clichés. Je vais tenter de vous prouver que ces clichés sont faux, afin peut-être de vous forger une autre opinion, voilà. Alors, pour réaliser cette chronique, je serai accompagné de Jean-Marie. Alors bonjour Jean-Marie et bienvenue.
Alors oui, bonjour. Je suis là pour débattre ce reportage, n'est-ce pas?
Alors on va commencer par un cliché très basique. Les jeux vidéo rendent solitaire et asocial, voilà.
Mais ça, c'est tout à fait vrai. Regardez tous ces jeunes devant leurs écrans qui se coinfrent de me porcs, n'est-ce pas? Alors qu'ils pourraient sortir voir du monde.
Ah donc ça c'est tout à fait faux, car les MMORPG, comme vous dites, qui se prononcent MMORPG, qui désignent les jeux de rôle en ligne, permettent de rencontrer des gens dans le jeu et ensuite les voir IRL, in real life, voilà. Le jeu vidéo n'a jamais empêché d'avoir un petit copain ou une petite copine, voilà. Ça c'est pas moi qui le dis, n'importe quel geek vous le confirmera. Et on continue avec le deuxième cliché, le jeu vidéo rend violent, voilà.
Alors là, je pense qu'il n'y a aucune réfutation possible lorsqu'on voit ces divers Anders Breivik et Mohamed Merah qui disent eux-mêmes avoir joué à des jeux comme Call of Duty, n'est-ce pas? Et ces jeux qui les ont poussés à passer à l'acte, comme on dit, n'est-ce pas?
Alors là, je vous arrête tout de suite, car d'après les études des universités américaines de Villanova et de Rutgers, la vente de jeux vidéo violents comme GTA et Call of Duty coïnciderait avec la diminution de crimes aggravés comme les homicides et ce genre de choses. Ce qui voudrait signifier que le jeu vidéo serait un catharsis. Ce qui signifie que le jeu vidéo permettrait de calmer les pulsions violentes de personnes violentes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, pour la suite de ce reportage, je n'aurai plus besoin de vous, Jean-Marie Le Pen. Donc je vais vous dire au revoir. Et en plus, la route est longue jusqu'en France.
Bon bah moi je te dis ciao.
Allez ouais, c'est ça, salut.
Bon. Bah là, c'est moi qui vais prendre la suite de ce reportage. Donc je vais vous diffuser un petit micro-trottoir là qui va nous soulever une question sur le jeu vidéo. Encore une autre, voilà.
Quel est votre avis général sur les jeux vidéo?
Les jeux vidéo, je trouve que c'est pas mauvais à part si on en abuse.
D'accord, merci. Ça va. Ça va bien.
Là, la personne, elle m'a dit que... La personne que j'ai interrogée, donc, elle m'a dit qu'il fallait pas abuser des jeux vidéo. Mais pourquoi? Car ça peut rendre addict, effectivement. Et c'est sur cette question que je vais continuer mon reportage. Est-ce que les jeux vidéo, ça peut effectivement rendre addict? Est-ce que l'addiction guette tous les joueurs? Bon, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement addicts, mais c'est une minorité comparée à tous les autres. Et comparée aux autres drogues, comme l'alcool ou le tabac, par exemple. Ensuite, j'aimerais dire, transmettre plutôt un message à des parents. Donc, si les parents m'entendent, j'aimerais leur dire que, avant de tout de suite aller, de paniquer, quand vous voyez que votre enfant joue beaucoup aux jeux vidéo, renseignez-vous sur son jeu, voyez ce qu'il fait, posez-lui des questions, essayez de vous intéresser un peu à son monde. Bon, ne pas l'envahir, car le jeu vidéo, ça reste un monde privé d'une certaine manière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'addiction, jeux vidéo, voilà. Donc en conclusion, je veux juste vous dire que il faut essayer de comprendre le jeu vidéo avant de le juger, pas coller une étiquette sur chaque personne qui joue à un jeu vidéo, ce que beaucoup de gens font, j'ai l'impression, de nos jours. J'aimerais aussi remercier Alain Soral et Jean-Marie Le Pen qui m'ont épaulé durant toute cette chronique-là. Et je vous dis à bientôt sur la Radio des Alpes pour une chronique avec, voilà, avec un thème qui sera sûrement fabuleux, je l'espère.
Ah, merci Ludovic, c'était super cool. Enfin, une chronique qui m'a plu.
Oui, mais je préfère largement le sport.
Bah tant mieux, parce que Sixtine va nous parler de l'athlétisme.
Ah, c'est trop cool, j'adore ça.
Mais juste avant, nous écouterons Bob Marley, qui est né le 6 février 1945, qui nous vient de la Jamaïque, comme Usain Bolt.
Quelques minutes à suivre. Que connaissez-vous de l'athlétisme ? Eh oui, l'athlétisme sera le thème de ma chronique. Sprint, saut en longueur, javelot, triple saut, course hors stade ou encore lancer de marteau. Connaissez-vous vraiment ces disciplines ? Allez, allons développer vos connaissances. Dans les sauts, il y a... Le saut à la perche remonte à la Grèce antique mais s'est développé à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Cette discipline consiste, après une course d'élan d'une trentaine de mètres, à franchir à l'aide d'une perche une barre transversale. Le saut en longueur, lui, existe dans toutes les compétitions sportives depuis l'Antiquité. Développé dans les pays anglo-saxons, elle consiste à effectuer un bond à partir d'une planche d'appel après avoir effectué quelques pas d'élan. Le triple au saut, lui aussi né en Irlande, est une épreuve d'athlétisme consistant à couvrir la plus longue distance possible en sautant à partir d'une marque fixe, après une course d'élan et en exécutant une séquence de 3 sauts. Le saut en hauteur, lui, possède des origines celtes et germaniques, car dès 1940, des concours de saut en hauteur ont lieu dans la ville d'Augsbourg. La règle consiste à franchir une barre horizontale la plus haute possible sans la faire tomber. Il y a plusieurs techniques de saut, le ciseau, le rouleau et depuis 1968, le Fosbury Plop est utilisé par tous les sauteurs. Et dans les lancers, il y a... Le lancer du poids est d'origine de la mythologie grecque et a été une épreuve officielle en 1876 aux États-Unis. Le but du lancer du poids est de projeter le poids le plus loin possible à partir de la zone de tir se situant dans un cercle. Le lancer du disque de forme circulaire fait normalement de bois avec des bords métalliques et un poids central réglable. La surface de lancer est un cercle de ciment qui mesure entre 219 et 250 cm de diamètre. Cette zone est entourée par une cage en forme de U mesurant 4 mètres de haut et 6 mètres de large. Le lancer du marteau, lui, date d'anciennes légendes celtes, 829 avant Jésus-Christ, et a beaucoup évolué pendant les siècles pour sa forme et également pour son poids. Le lancer du marteau est constitué de 3 parties, le poids, 7,257 kg pour les hommes et de 4 kg pour les femmes. Ce dernier est fixé à une corde en acier reliée à une poignée. Le javelot fut utilisé pour la chasse à l'Antiquité, mais ce fut Hercule qui a été réputé d'avoir été l'un des premiers lanceurs de javelot. Ce dernier a été redessiné à plusieurs reprises vers les années 80 pour contrôler sa sécurité.
Bonjour, je vais interviewer Inès qui va nous en dire un peu plus sur la course et sur quelques grands sportifs. Alors, quelles sont toutes les épreuves dans la course à pied ?
Il y a le sprint, les relais, les courses de haies, les courses hors stade, donc des marathons, semi-marathons ou le cross-country et aussi les courses de fond et de demi-fond.
Qu'est-ce que les courses de fond et de demi-fond ?
On appelle course demi-fond car ce sont des distances comprises entre 800 et 3000 mètres. Et celles de fond sont des distances supérieures à 3000 mètres.
Pourrais-tu me citer quelques grands sportifs ?
Alors, dans les sprinteurs, on peut citer bien évidemment Usain Bolt, qui a réussi à garder son titre dans 3 disciplines différentes, le 100, 200 et le 4x100 mètres. Chez les femmes, il y a aussi l'américaine Jackie Joyner-Kersee qui domine les épreuves de l'heptathlon et du saut en longueur avec au total 3 titres olympiques et 4 titres mondiaux.
Merci beaucoup Inès d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, l'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en course, saut, lancer, épreuves combinées et marche. Et voici une petite anecdote avant de vous dire au revoir. L'origine du mot athlétisme vient du grec athlos signifiant combat. Il s'agit en fait que c'est l'art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur. Grâce à cette petite chronique et à Inès, vous coucherez sûrement moins bête ce soir. Salut!
Alors Axel, ça t'a donné envie de bouger ?
Ouais, mais je préfère quand même les jeux vidéo. Mais avant que tu ailles courir, sauter ou une des mille et une disciplines de l'athlétisme, nous allons...
écouter Bastien qui va nous parler d'un instrument à percussion, plus couramment appelé tambour.
Et après, nous écouterons Roundtable Revolt de l'album Short Ami de la violoniste Lindsay Stirling.
C'est l'heure du reportage.
Bonjour ou bonsoir chers auditeurs. Comme vous le savez déjà, je vais vous présenter mon hobby. Il s'agit du tambour. Je vais y faire une présentation historique suivie d'une interview. Et je vais pour finir vous parler de sa composition. Bonne écoute, chers auditeurs. Pour commencer, le tambour est un instrument de musique à percussion dont on frappe à l'aide de doigts ou de baguettes prévues à cet effet. La vibration qu'il contiendra sera amplifiée grâce à l'intérieur qui fait office de caisse de résonance. Le tambour existe dans beaucoup de cultures. Les premières traces de son existence remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ. Les tambours sont l'invention des Égyptiens. On en a retrouvé dans des tombeaux datant du 11e siècle avant Jésus-Christ. En Chine, ils sont apparus au 2e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, passons au reportage. Je vais interviewer Jonathan de Castro, mon professeur de tambour.
Alors, salut Jonathan.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Oui, oui. Alors, je vais te poser quelques questions.
Ok.
Alors, depuis combien d'années tu fais du tambour ?
Alors, le tambour, ça fait... J'ai commencé à 5 ans. Et puis, ça fait... actuellement, j'en ai 25. Donc, oui, après, j'ai fait un peu de batterie. Mais tambour, exactement, ça fait 10 ans.
Et puis, tu où est-ce que tu as appris à jouer du tambour?
Alors, j'ai commencé à la Fanfare et Device de Martinibourg. Parce que c'était un peu la seule école où on pouvait faire... Ouais, disons qu'on pouvait faire tout ce que je voulais, donc c'est-à-dire tambour, percussion et batterie. Donc j'ai commencé par là.
Donc quel a été ton ancien professeur?
Alors, mon ancien professeur de tambour, c'était Lionel Abbé, dit Tounet, mm-hmm. qui a enseigné pendant plusieurs années à l'école de musique de Martigny, et puis aussi, il faisait aussi la clique des tambours à Martignybourg. Et puis ouais, c'était un grand prof qu'on adorait vraiment être à ses cours parce que il faisait tout le temps nous marrer, quoi. Il faisait tout le temps des blagues et puis c'était sympa de très...
Et pourquoi tu aimes le tambour?
Bah, le tambour déjà parce que déjà c'est un instrument de prédilection. C'est-à-dire que j'adore le rythme en général, donc forcément taper sur quelque chose, c'est assez naturel. Mais après c'est vrai que j'adore parce que déjà c'est... C'est quelque chose d'impressionnant, du point de vue de la taille, du bruit. Y a plein de morceaux qui sont composés donc pour tambour, donc il y a une variété qui est énorme. Et puis aussi, quand j'étais petit, puis que je voyais vraiment les fanfares arriver avec les tambours qui jouaient, c'était vraiment pour moi le... Voilà, il y a la fanfare qui arrive. Mm-hmm. Les tambours annoncent qu'une fanfare défile ou bien annonce quelque chose. Donc ouais, donc pour moi c'est tout ça qui fait que le tambour est... Cool, quoi.
D'accord. Alors, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, Jonathan.
Pas de souci. Merci à toi.
Alors, à la prochaine.
Oui, pas de problème.
Ciao.
Maintenant, passons à la composition du tambour. On distingue les tambours par la forme de leur fût, la partie centrale du tambour. Ils peuvent être en bois, en métal ou en céramique. La membrane, c'est la peau où on frappe sur le tambour, c'est généralement une peau de chèvre, d'agneau, de vache, de poissons ou de reptiles. Mais parfois, ça peut être une matière synthétique. Elle est fixée avec des clous, de la colle, des boutons ou des pinces sur le cercle, ce qui est le tour du tambour. Les tambours d'orchestre occidentaux sont généralement pourvus de deux anneaux. Ce sont les cercles, fixés un en haut et un en bas pour chaque membrane serrée l'un contre l'autre. Ces deux colliers maintiennent la membrane tendue. Il y a parfois un timbre à l'arrière de la membrane que l'on peut mettre ou enlever à volonté. Voilà, maintenant vous connaissez la composition du tambour, son histoire et que vous avez écouté l'interview d'un professionnel. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Radio des Alpes.
aujourd'hui, je vais vous présenter un thème plutôt réservé aux filles. Faire du shopping. Eh oui, regarder les vitrines des boutiques, essayer les habits, réaliser une tenue avec des couleurs concordantes. Beaucoup de filles s'y connaissent, et peut-être même les garçons parfois. Je vais aller donc poser quelques questions à des personnes de mon entourage pour savoir ce qu'ils en pensent. Puis je ferai un pourcentage. Vous verrez et vous pourrez voir où vous vous situez. Bon, alors arrêtons de parler et passons tout de suite à ce micro-trottoir. Ah oui, mais avant tout, c'est quoi la mode ? La mode, ça désigne la manière de se vêtir. Mais pas seulement. Cela concerne aussi les accessoires, le maquillage et même les modifications corporelles, comme la chirurgie ou un tatouage ou encore des piercings par exemple. La manière de s'habiller correspond au goût d'une époque, de certaines régions. La recherche esthétique est très importante en matière de mode, surtout pour les grands créateurs, pour les défilés, etc. La mode, c'est aussi un moyen d'affirmer son rang social et également sa personnalité. En fait, c'est tout un art, un style de vie et même une passion. Ou même parfois un jeu, comme dans les reines du shopping diffusées sur TF1. Alors je vais aller faire ce micro-trottoir et je vais poser à 3 personnes différentes et je vais leur poser alors 2 questions. Donc, qu'en pensez-vous des compétitions des reines du shopping diffusées sur TF1 ? Ou bien, quand vous faites du shopping, c'est plutôt pour le plaisir ou l'utilitaire ? Alors voilà, commençons tout de suite. Alors, bonjour monsieur. J'aurais des questions à vous poser, si vous êtes d'accord.
Bonjour, oui, je suis d'accord.
Alors, c'est pour un petit sondage. Alors d'abord, que pensez-vous des reines du shopping ?
Les reines du shopping, je trouve que c'est une émission qui ne sert pas à grand-chose. Et j'aime bien voir des fois la tenue que portent certaines personnes. Voilà.
Ok. Quand tu fais du shopping, c'est plutôt pour le plaisir ou plutôt pour l'utilitaire ?
Moi, je fais pas vraiment de shopping, mais à chaque fois que je vois un habit qui me plaît, ben, je l'achète facilement.
D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Alors, salut. J'aurais 2 questions à te poser. Alors, première question, que penses-tu des reines du shopping ?
Je sais pas, moi je trouve que c'est marrant parce que des fois il y en a qui sont pas belles, ça me fait rire.
Et puis dernière question, quand tu fais du shopping, c'est plutôt pour le plaisir ou bien pour l'utilitaire ?
Ça dépend, la plupart du temps c'est juste parce que j'ai envie d'acheter de nouveaux trucs mais pas forcément besoin et des fois pas très souvent je vais parce que j'ai besoin de quelque chose.
Salut Romaine.
Salut.
Alors comme tu sais aujourd'hui je vais te poser 2 questions.
Oui.
Alors, première question, que penses-tu des reines du shopping ?
C'est une émission, disons, bœuf, mais quand on n'a rien à faire, c'est bien.
Ouais.
Et voilà.
D'accord. Et puis, quand tu fais du shopping, c'est plutôt pour ton utilitaire ou bien pour ton plaisir ?
On va dire les deux. Parce que... Enfin, c'est plutôt pour le plaisir, parce que j'ai beaucoup d'habits, mais... J'aime bien essayer des vêtements pour voir si ça me va ou pas. Essayer des choses que même que je ne mettrais pas. Enfin, j'aime bien.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Romaine. Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, l'émission arrive à la fin. Alors, j'ai fait passer à la radio 3 personnes, mais en vrai, j'ai interviewé 10 personnes. Donc 5 garçons, 5 filles. Donc pour la première question, que pensez-vous des reines du shopping ? 3 filles sur 5 m'ont dit qu'elles aimaient bien regarder, qu'elles trouvaient ça intéressant. Et il n'y a aucun garçon, quand j'ai interviewé toutes sortes de garçons, de n'importe quel âge. Alors il n'y a aucun garçon qui n'aime regarder les reines du shopping. Parfois certains regardent pour passer leur temps. Et pour la deuxième question, s'ils préfèrent faire du shopping pour acheter de l'utile ou plutôt faire lèche-vitrine, enfin pour le plaisir. Comme avant, 3 filles sur 5 font pour le plaisir en général et les autres pour l'utilitaire plutôt. Et puis 2 garçons sur 5 quand même aiment faire du shopping pour leur plaisir parce qu'ils aiment bien s'occuper d'eux, voilà. Donc c'est la fin de mon émission maintenant. J'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt.
Vous venez d'écouter Selena qui nous a parlé d'un art, le shopping.
Moi j'aime pas le shopping. De toute façon c'est un truc de fille, d'acheter des habits dans les boutiques toute la journée, ça me gonfle. Je préfère encore les jeux vidéo.
Dommage pour toi, mais Vanessa va aussi parler d'une activité plutôt féminine.
Oui, elle va nous parler du patinage artistique.
Et après, nous écouterons Jean-Jacques Goldman, qui est un auteur, compositeur, interprète et producteur,
Fin 2012, il est le troisième artiste à avoir vendu le plus grand nombre de disques en France.
Comment les gens ? Alors, en fait, je suis de retour. Le thème, c'est le sport et prendre le panel artistique, puisque c'est mon hobby, comme c'est un reportage. Je vais commencer par vous dire que l'histoire du patinage artistique, comment ça a commencé. Donc, au début, c'était pas du patinage artistique, juste du patinage. Enfin, voilà, c'était mes premiers patins à glace, c'était des ciseaux et de bœuf. Et puis après, bon, c'est pas très bon, c'est devenu des lames en acier. Donc là, quand c'est en acier, c'est là que ça a commencé à devenir un divertissement à la maison, quoi. Donc en fait, on l'a pas vu, enfin, il y a pas des gens qui sont venus nous raconter, hein. On a vu ça sur des peintures de Hollande, le pays, le président, et voilà, donc des peintures hollandaises. Donc voilà, après, c'est vraiment en 1813, je vous dis des dates que vous allez jamais retenir. Voilà, c'est en 1813, ça a commencé à être du patinage artistique, je fais des guillemets, mais vous les voyez pas. Là, ça a été du patinage artistique, c'est dans l'ouvrage d'un monsieur, qui s'appelle Jean Garcin, qui a écrit Le vrai patineur ou les principes sur l'art de patiner avec grâce. Voilà, enfin bref. Ensuite, tout ce qui se passe entre c'est pas qu'on se donne envie. En 1906, nous les femmes, on est arrivées comme d'habitude. Au début, c'était que des gars. Mais bon, tellement plus beau quand c'est nous qui le faisons. Donc, en 1906, les femmes entrent en compétition individuelle. Donc, cette phrase nous donne de la force et de la puissance. Et en 1908, il y a des couples qui ont commencé à faire. Bon, là, vous êtes complètement en train de vous ennuyer parce que l'histoire, c'est pas du tout intéressant. Je vais vous parler des sauts qu'on apprend. Enfin, les sauts simples au patin. Donc, il y a le premier saut, c'est le saut droit. Le deuxième saut, c'est le salco. Après, il y a le Rydberg. Il y a le Fionnage, je vous ai pas dit, que c'est plutôt un saut qu'on fait avec le Touloup. Donc, le Touloup, c'est un saut qu'on fait plutôt avec un autre saut qu'on combine, saut 3 Touloup, comme ça, parce que c'est un saut qui est plus, il y a juste un piqué. C'est un saut très simple. On rentre sur la carte intérieure. Bon, vous voyez, sur la lame, il y a deux cartes. Il y a une carte intérieure et une carte extérieure. Je dis ça parce qu'après, on va dire, ouais, mais t'as dit, puis on comprend pas. Vous comprenez pas ce que j'ai dit, car, c'est quoi car? Tu veux dire carré? Enfin bref, comme je le dis, les patins, il y a plusieurs cars, voilà, extérieur sans dehors, puis intérieur sans dedans, genre, et voilà. Donc, on part sur la carte intérieure, on pique et on fait un genre un mini saut, enfin, c'est un peu pas inutile, mais voilà. Donc, vous savez l'histoire, vous savez les sauts, vous voulez savoir les rouettes, bah, il y en a là, il y a une debout rasée, donc on croise les jambes, c'était pas logique, hein, croisement, pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Ensuite, il y a la pirouette assise, où il y a l'illusion, enfin l'illusion qu'on est assise, on est baissé, quoi, on n'a pas de chaise, enfin, c'était nul. Donc, pirouette assise. Ensuite, on a plusieurs pirouettes, on est cambré, des choses comme ça. Donc, cambré, c'est qu'on est, je trouve un bon mot, incliné, ou non, incliné vers l'arrière. Donc, voilà, et avec les bras, dans des beaux gestes de bras. Il y a des pas aussi, on les appelle souvent les pas d'avion, parce que des pas, donc, il y a l'avion. Il n'y a rien de logique, en fait, hein, mais non, ils ont jamais rapport. Il y a le palmier, donc, quand on attrape notre patin par derrière, et... je pense que vous voyez ce que je veux dire. On attrape la lame et on la ramène le plus haut possible. Voilà, donc maintenant vous avez les sauts, les pirouettes, les pas. Enfin, vous savez toutes les bases. Hein. Maintenant, si ça vous intéresse, vous prenez un cours. Hein, parce que moi, ça a 3 minutes hein, de vous expliquer ça. Mais bon, après, voilà. Alors, merci de m'avoir écouté quand même. Puis, au revoir. Bonne journée ou bonne soirée.
La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Ici à jamais, une saison pour être mieux.
J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure, à coups de livre, je franchirai tous ces murs.
Le patinage artistique, ça me fait toujours rêver.
Moi j'en ai marre, toutes ces filles. Mais j'aime bien le patin. Mais je ne suis pas très gracieux. Patinage artistique, c'est pas fait pour moi.
C'est dommage pour ta grâce. Mais bon, Morgane va nous parler d'un sport de glace plutôt masculin, le hockey.
Ça te convient, Axel?
Ouais.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sport, et plus particulièrement du hockey sur glace. Ce sport est d'origine canadienne et se joue, comme vous l'avez deviné, dans une patinoire. Dans chaque équipe, l'effectif total des joueurs est d'environ 20, c'est-à-dire d'environ 12 attaquants et 8 défenseurs. Mais sur la glace, il ne peut y avoir que 5 joueurs en même temps, ce qui veut dire une ligne d'attaque, donc 3 attaquants, et une ligne de défense, 2 défenseurs, sans oublier le gardien. Pendant tout le long du match, des changements réguliers sont effectués afin de laisser reposer les joueurs. Les plus grandes équipes se trouvent au Canada et en Amérique du Nord. On appelle cette ligue la NHL. Ce sport est aussi pratiqué en Russie et dans l'Europe du Nord, Finlande, Norvège, Suède. Maintenant, parlons un peu de la Suisse. Le hockey prend une part importante du sport en Suisse, avec la Ligue Nationale A, là où jouent les plus fortes équipes, par exemple pour la Suisse allemande, Berne, Zurich, Davos, etc. Et pour la Suisse romande, Lausanne, Genève-Servette et Fribourg-Gottéron. C'est aussi les matchs que l'on peut voir à la télé. Ensuite vient la Ligue Nationale B, ligue juste inférieure. En Valais, deux clubs y jouent, le HC Red Ice qui joue à Martigny et le HC Viège. Après, il y a encore d'autres ligues inférieures comme la Première Ligue, Deuxième Ligue et Troisième Ligue. Maintenant, je vous laisse écouter mon interview du journaliste officiel du HC Red Ice, Mathias Farquet.
À quel âge peut-on commencer le hockey ?
Ben, on va dire qu'on peut commencer le hockey dès qu'on sait patiner, c'est-à-dire qu'il y a des tout-petits qui ont 3-4 ans, qui commencent déjà à l'école de patinage. D'abord, ils apprennent à patiner, puis après, on part avoir une canne, il y a des jeux.
Combien d'équipes jouent pour le Red Ice Martigny?
Alors, c'est dur à dire. Il y a d'abord la première équipe, on entend parler dans les médias, une. Il y a la 2 et la 3 de Red Ice qui jouent dans les championnats actifs. Après, il y a l'équipe des juniors moins de 20 ans. Et plus on descend, plus il y a d'équipes. Mais on va dire que c'est près de 300 jeunes qui font partie du mouvement junior. Donc, à peu près une douzaine, quinzaine d'équipes, je dirais.
Est-ce que ce sport est aussi pratiqué par les filles?
Oui, le hockey est pratiqué par les filles. Au niveau suisse, on a tous le souvenir de la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de l'équipe nationale féminine. Malheureusement, à Martigny, au Red Ice, on n'a plus de section féminine. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au hockey. Donc c'est dur de faire des équipes, d'avoir pour une équipe inscrite en championnat, il faut 20 joueuses, près entre 15 et 20 joueuses. Et c'est pas toujours facile de trouver les joueuses. Mais c'est un sport qui se développe. Et comme je l'ai dit, la Suisse a fait une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Donc il y a un bel avenir pour le hockey féminin en Suisse.
À partir de quel niveau un joueur peut-il gagner sa vie en jouant au hockey?
On va dire que c'est le niveau Ligue Nationale en Suisse. C'est-à-dire Ligue Nationale B, où joue le Red Ice aujourd'hui, et Ligue Nationale A, où on gagne encore mieux, même très bien sa vie. Dans les ligues inférieures, il n'y a personne qui gagne sa vie grâce au hockey, à part les entraîneurs, bien sûr, mais si on parle des joueurs. Et en Ligue Nationale B, les jeunes sont étudiants souvent à côté, gagnent un peu d'argent de poche amélioré, on va dire. Et puis une bonne moitié de l'équipe qui gagne vraiment sa vie grâce au hockey.
Est-ce envisageable qu'un club du ballet joue en Ligue Nationale 1 à moyen terme?
Ça, c'est la grande question. La réponse est oui, c'est envisageable. Est-ce que ça va se faire? C'est encore plus compliqué de le dire. Mais c'est clair que l'ambition du Red Ice, un jour, c'est d'aller en Ligue Nationale 1. On travaille en Ligue Nationale 2 pour se donner les moyens. Alors après, il y a toujours des solutions évoquées pour un club valaisan en Liga. Est-ce qu'il faudrait faire une grande fusion, mettre plusieurs clubs ensemble, etc. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Je pense qu'il faut continuer le travail qui se fait aujourd'hui au Red Ice à Martigny, avec les jeunes également, les mouvements juniors de tout le Valais, de Monté à Sion, qui travaillent ensemble derrière le Red Ice, à construire une pyramide. Et ainsi, avec l'appui des partenaires privés, des sponsors aussi, avec une équipe qui gagne, avec des jeunes de la région qu'on peut intégrer, il n'y a pas de raison que dans 5-10 ans, on n'ait pas une belle patinoire flambant neuve entre Monté et Sion, c'est-à-dire à Martigny, avec une équipe en Liga.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Voilà, c'est la fin de mon interview. J'espère que cela vous aura plu et vous aura surtout donné envie d'aller voir des matchs de hockey.
Aujourd'hui, je vais vous parler de danse. Je vais commencer par le hip-hop, qui est une danse apparue aux États-Unis à New York. Je vous parlerai ensuite du ragga dancehall, qui est une danse d'origine jamaïcaine. Le hip-hop est une danse apparue aux États-Unis à New York au début des années 1970-1980. Originaire des ghettos noirs de New York, le hip-hop se répandra rapidement dans l'ensemble du pays, puis dans le monde entier. On peut aussi considérer que les origines du hip-hop viennent des poètes et des musiciens ambulants d'Afrique de l'Ouest qui sont déportés en tant qu'esclaves sur le continent américain. La musique hip-hop est issue de la soul et du funk. Il y a plusieurs styles de hip-hop comme le hip-hop girly, qui est une danse plutôt sexy, le break, qui est caractérisé par des figures et enchaînements acrobatiques au sol, le popping, souvent appelé la danse du robot, et bien d'autres. Maintenant, je vais vous parler du ragga dancehall. Cette danse est née sous le soleil des îles tropicales. Elle est donc plus sensuelle et joyeuse que le hip-hop. Elle est apparue au tout début des années 1980. Elle se propage rapidement dans la Guyane, les Antilles, l'île Maurice et la Réunion. Le ragga dancehall est aussi appelé ragga muffin.
Bonjour, alors je vais vous poser une question. Si je vous dis ragga dancehall, ça vous fait penser à quoi ?
Ça me fait penser à un style de danse du style reggae, mais avec des influences plutôt jamaïcaines ou africaines.
D'accord, au revoir, merci.
Bonjour, alors si je vous dis ragga dancehall, vous pensez à quoi ?
Ragga dancehall, je pense à de la danse que font des jeunes en Afrique, dans des pays d'Afrique, comme le reggae c'était l'Afrique, donc l'Afrique.
Bonjour, alors je vais vous poser une question. Quand je vous dis hip-hop, ça vous fait penser à quoi ?
Ça me fait penser à un style de musique, un style de danse aussi et à un style vestimentaire.
D'accord, au revoir, merci.
Bonjour,
alors ma première question c'est, si je vous dis hip-hop, vous pensez à quoi ?
Si vous me dites hip-hop, si tu me dis hip-hop, je pense à la danse que font des jeunes en Amérique, par exemple.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, j'espère qu'après vous avoir parlé de ces deux styles de danse, vous saurez mieux ce que c'est. Sur ce, à bientôt.
To lose, I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I can't wait no more.
Ya no puedo
sí.
más.
She a girl up on me a set it, 'cause you know say me no bet it. Me a tell her not to bet it. Take the time when we get it. It's gonna be alright. We're taking the full flight. We're doing this all night.
Bah voilà, vous remettez encore des filles. Mettez du foot, du rugby, des sports de mecs virils.
Ne t'inquiète pas, c'était Chloé la dernière fille.
Alors il ne reste qu'un garçon, et c'est Max. À moins que ce soit une fille.
Je ne pense pas que Max soit une fille, à moins que...
On pourrait vérifier.
Max, t'es une fille ? Non ? Bon alors. Bon, nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Alors nous allons vous laisser écouter Max, qui n'est normalement pas une fille.
puis Magic de Coldplay, un groupe qui nous vient des USA.
Et nous vous disons au revoir et à bientôt sur Radio des Alpes.
Au revoir. Ciao.
Non !
Elle est coupée, c'est bon, elle est bonne, on la garde.
Oui.
Ah, vous êtes là ? Eh bien, qu'est-ce que je devais vous montrer aujourd'hui ? Alors, d'après mes documents, 6 juin, je... Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un film ou un court-métrage en seulement 7 étapes. C'est parti, mon kiki !
Première étape.
Faut déjà trouver une idée assez vaste que vous devrez concrétiser par la suite. L'astuce est en fait de baser son idée sur un fait réalisé ou qui est en train de se produire.
Exemple.
Oh, je me fais ch*** là. Mais attends, ça veut dire que je pourrais faire une vidéo de merde. Ne recherchez pas d'idée qui sera en-dessus de vos moyens pour le montage ou le tournage. Sinon, hein, blop. Deuxième étape. Vous devrez écrire le scénario, c'est-à-dire mettre toutes les actions par écrit. Pour cela, rien de mieux qu'une plume trempée dans de l'encre chinoise sur un papyrus. Ou alors vous écrivez tout ça sur un Microsoft Word comme tout le monde. Vous pouvez, si vous le voulez, créer un storyboard qui est la reconstitution des scènes que vous allez réaliser. Personnellement, je vous conseille un crayon de type HB pour en fait réaliser...
Oh punaise, on est à la troisième étape.
Trouvez des acteurs pour tenter de réaliser un casting. Si vous ne trouvez personne, faites une manifestation.
Non, non, non ! Ah, la solitude !
Quatrième étape. Vous pouvez enfin commencer le tournage. Trouvez une caméra de qualité acceptable et n'essayez pas de filmer avec l'abricot de Tata Germaine. Sinon, ok, je sors. C'est bon, je suis revenu. Essayez de refaire chaque scène plusieurs fois pour ensuite prendre la meilleure. Et aussi pour en mettre les acteurs, mais bon, ça c'est un secret, donc faut pas le dire.
Voilà. Oh, cinquième étape.
L'étape de la post-production vous attend. Envoyez directement les vidéos loupées au PET et non à l'aluminium. Je parle du recyclage, merci. Mettez les bonnes vidéos sur un logiciel de montage comme Sony Vegas, After Effects, Premiere Pro ou autre. Vous pourrez de ce fait couper, intercaler, traiter, etc. vos vidéos pour ne créer plus qu'un seul fichier final que vous perdrez dans tous vos documents au fil du temps. Sixième étape. La bande son. Il vous faudra sûrement de la musique et bien sûr ses droits d'auteur qui vont avec. La meilleure solution est de la créer soi-même ou de demander à un proche de le faire. Si ce n'est pas une option pour vous, vous pouvez tout de même acheter des musiques sur des sites spécifiques comme Premium Beat. On m'a quitté pour que ça a bipé. Je ne comprends pas. Le beat, c'est la musique, c'est la spiritualité de la musique, c'est le son.
Ah bah non, en fait.
Septième étape. Vous avez la possibilité de poster votre court-métrage final sur des sites tels que YouTube, Dailymotion ou autres. Vous pouvez aussi graver des CD ou tout simplement le laisser seul, sans vie, dans votre ordinateur. Alors, merci de m'avoir écouté.
Merci qui ?
Merci Jacques et Michel.
C'est tout pour moi.
Michel, t'as où les vaches ?
Mais sur Radio des Alpes, Didier.
Oh, mais tip top.
And I can't.